quelques épisodes techniques. Je suis accompagné de Jérémy et Quentin. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Eh bien, du coup, je vais commencer. Je m'appelle Jérémy Sion. Je suis analyste Cyber Threat Intel chez Sequoia.io, une société française de cybersécurité qui vend un logiciel SaaS XDR, enfin la détection de menaces qui fait du SOC, hein, et qui a la particularité d'avoir la CTI d'intégrer à l'intérieur. Et au sein de cette société, je suis donc analyste CTI et je m'occupe plus particulièrement de la création des règles de détection et également des honeypots. À toi, Quentin.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Quentin Bourg, également analyste CTI au sein de Sequoia. Nous sommes tous les deux dans l'équipe TDR pour Threat Detection and Research. Et pour ma part, je suis spécialisé donc sur les menaces cybercriminelles et plus spécifiquement sur le suivi des infrastructures adverses, donc associées à toutes ces menaces cybercriminelles.
Cool. Vous venez aujourd'hui me présenter ou en tout cas parler de l'attaque que vous avez nommée WP, essentiellement qui sert à tromper un modèle des clients déjà connus. Bref, c'est un modèle opératoire qui a beaucoup changé dans le monde des méchants. Autant avant, c'était des non-ciblés, puis on voit clairement qu'ils changent l'opération, ces éléments-là, puis c'est vraiment l'aspect, à mon sens, le plus intéressant du rapport que vous avez publié. Et en ce sens, je vais vous laisser en parler parce que clairement, je suis trop excité et je sais pas par où aborder la chose.
Alors on peut déjà présenter la menace avec les deux étapes principales. Donc c'est un mode opératoire qui est assez spécialisé, qui va cibler dans un premier temps les hôtels, donc les administrateurs et les administratrices de ces hôtels, dans le but de compromettre le système afin d'avoir accès aux différents comptes de gestion de l'hôtel pour avoir des informations sur les différentes réservations et les différents clients. Donc ça, c'est la première étape. Et une fois que ces accès sur les comptes donc associés aux services tels que Booking.com, Expedia, Airbnb et autres sont obtenus, il y a la deuxième partie de l'attaque donc qui consiste à de la fraude financière. Et là, les attaquants vont cibler les différents clients de ces hôtels pour les faire payer deux fois, d'où le titre de la campagne WP, afin d'extorquer de l'argent des clients. Et la spécificité de cette attaque, c'est puisque l'attaquant a accès au compte Booking.com et autres, il a les détails des différentes réservations avec le nombre de nuits, le nom des clients, leur numéro de téléphone, le tarif également des réservations. Et ça permet de créer des messages très réalistes et de tromper de nombreux utilisateurs et utilisatrices avec cette fraude.
Si on regarde le premier volet de l'attaque qui est vraiment de récolter ces accès-là, parce que ça, je pense que c'est là où où il excelle, en tout cas, à l'excellence pour réussir à mener le deuxième volet. Comment ils s'y prennent pour aller voler ces comptes-là de Booking.com dans l'occurrence, mais aussi d'autres services? C'est quoi la stratégie qui nous mène à l'obtention de ces informations-là qui sont franchement très précieuses?
Alors là-dessus, en fait, nous, on a documenté une campagne, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes qui utilise ce mode opératoire parce que justement c'est un business assez lucratif. Nous, dans la campagne que l'on a observée, l'attaquant envoie des messages de phishing hein, aux différentes centrales de réservation des hôtels en typo squattant, on va dire, le branding de Booking ou d'autres plateformes de réservation en ligne et en faisant croire à l'hôtelier qu'il s'agit d'un message d'un client. Et voilà, le prétexte, ça va être des demandes d'informations sur la réservation ou alors une accommodation particulière, par exemple, sur la nourriture, etc., etc. Et donc, ça, c'est vraiment l'accroche. Du coup, les hôtels qui peuvent être un petit peu dans le rouge vont faire attention, vont cliquer sur le lien, et là, on tombe sur une méthode click-fix qui est très, très utilisée en ce moment. Pareil, la page, elle reprend le branding de Booking ou d'autres plateformes de réservation. Et si l'hôtelier exécute la commande ClickFix, derrière, il tombe sur un schéma d'infection un peu classique avec une commande PowerShell qui va délivrer une charge. Bon, nous, dans notre cas, c'était pure rat. Et voilà, et derrière, bah, l'attaquant a la main et va pouvoir voler les creds de la machine.
Et l'intérêt de l'attaquant, en l'occurrence, c'est d'avoir garder le plus longtemps possible son accès à la dite machine, justement pour être capable de rafraîchir les cookies de session, j'imagine, de ces plateformes-là.
Alors, on ne sait pas forcément s'il utilise les cookies. Ce qui est certain, c'est qu'avec ce type de logiciel, il est capable aussi de récupérer les CRES, donc les logins, passwords d'accès à Booking, Expedia, etc. Donc, même sans cookies, il est déjà capable d'avoir un accès frauduleux à la plateforme Booking. Et donc ça, c'est vraiment l'essence de son business, puisque c'est ça derrière qui va aller monétiser sur différents forums criminels.
Et de cette infection-là, étant donné que tu mentionnais que c'était assez classique comme élément, comment ça se fait que ce n'est pas attrapé normalement par des antivirus qu'on pourrait dire plus classiques? Et comment ça se fait qu'il réussit à se faufiler aussi facilement que ça? Parce qu'il y en a, si vous êtes intéressé, il y en a suffisamment pour que le nombre soit intéressant.
Alors, au niveau de la chaîne d'infection, bon, bah, ça, l'intérêt de ClickFix, justement, c'est de ne pas avoir un message qui soit malveillant, enfin qui contienne la charge dans le mail. C'est juste une URL qui va rediriger vers une page et c'est finalement la victime qui va s'auto-infecter en exécutant une commande PowerShell. Alors, la difficulté, c'est toujours pareil avec PowerShell, que c'est un outil extrêmement puissant et qui est pas mal détourné par les attaquants. Derrière, en ce qui concerne la chaîne d'infection, pour être très précis, en fait, on a du DLL sideloading et un usage détourné de add-in process pour justement charger en mémoire le payload final. Alors, est-ce que ça bypass tous les antivirus? Est-ce que ça bypass tous les EDR? Ça, on n'a pas forcément fait le test. Ce qui est certain, c'est que ça en bypass certains parce que c'est toujours pareil. Hein, c'est le jeu du chat et de la souris entre l'attaquant qui utilise une technique nous, les défenseurs, qui essayons de nous adapter.
Et pour compléter ta réponse, Jérémy, contrairement à du phishing classique ou du téléchargement d'une charge malveillante depuis le navigateur web, avec cette méthode de social engineering ClickFix, l'utilisateur va uniquement exécuter une commande et ça va être par la suite que la charge va être téléchargée. Donc le téléchargement de la charge ne sera pas suivi comme elle est suivie via une boîte mail ou via un navigateur web par les équipements de sécurité de la même manière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette tactique de social engineering a un taux de compromission plus élevé, puisqu'elle permet d'éviter de nombreuses mesures, enfin de nombreux équipements de sécurité tels que les scans implémentés au sein d'un navigateur web ou même des scans liés à un EDR ou une autre solution similaire.
Et de ce que je constate, excuse-moi, de ce que j'ai lu dans votre rapport, l'attaquant est clairement spécialisé face aux hôteliers. Ça, il n'y a quasiment aucun doute là-dessus. Donc, je peux présumer, puis là, entre les lignes, que tout le modèle technique utilisé en arrière, notamment utilisé du sideloading, notamment en utilisant, parce qu'il utilisait des ports non standards pour communiquer à l'extérieur, ce qui, normalement, dans un réseau d'entreprise, c'est bloqué. Dans ce cas-ci, clairement, ça ne l'est pas. Donc, il devait savoir jusqu'à un certain point l'environnement dans lequel ils se trouvaient, ou en tout cas, la plupart des hôteliers se trouvent?
Ouais, alors, pour cette technique, je ne sais pas si on peut affirmer que les attaquants sont au courant que sur les systèmes des hôteliers, ces techniques fonctionneront. Pour ma part, je pense que ça reste quand même des chaînes d'infection qui sont assez opportunistes. L'attaquant fait au mieux pour avoir une chaîne d'infection qui est relativement discrète et peu détectable. Et donc, il va utiliser certaines techniques telles que dans la campagne qu'on a utilisé le DLL sideloading. Après, les attaquants vont quand même mener des campagnes opportunistes en ciblant de nombreux hôtels, sûrement partout dans le monde. Et donc, il n'a pas forcément fait une phase de reconnaissance pour connaître les différentes spécificités de ces cibles.
Ouais, je suis assez d'accord avec Quentin. Et quelque chose qu'on a aussi remarqué, c'est que dans d'autres chaînes d'infection via ClickFix qu'on a pu observer, on avait déjà constaté que en fonction du user agent, donc en fonction de l'empreinte numérique du navigateur, l'attaquant allait délivrer une charge pour Windows ou une charge pour Mac. Et dans le cas présent, on a fait le test en switchant notre user agent vers un user agent Mac. Et pour le coup, on continuait d'avoir une charge Windows. Ce qui veut dire que l'attaquant, en tout cas, de l'attaquant de notre cluster hein, qu'on a observé, ne dispose pas, ou en tout cas n'a pas pris en compte la possibilité que l'hôtelier soit équipé en Mac.
Ouais, ben c'est un peu aussi, c'est un peu dans ce sens-là que je présumais que peut-être que 80% de sa cible, de toute façon, n'était que sur Windows, puis c'était plus facile. Et donc, puis on est toujours dans un contexte de ratio d'effort rentabilité. Donc, si c'est pas rentable, il fera pas l'effort de développer une charge sur Mac en l'occurrence. Donc, j'ai l'impression que à mon feeling, c'est la lecture des choses, c'est comme ça. Et clairement, il a l'air d'avoir réussi parce que ça mène quand même suffisamment loin. En tout cas, ça a l'air d'être rentable. Puis ce que je voyais dans les choses, ils font des publicités justement pour sur les forums pour faire valoir à quel point leur outil fonctionne quand même assez bien.
Ben, alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que l'outil, enfin le malware qu'il utilise, Pure Rat, c'est un malware as a service. Donc, typiquement, c'est pas l'attaquant qui l'a codé. Il le loue en quelque sorte. Hein. C'est vraiment. Il y a tout un écosystème, et ça qui est intéressant aussi dans cette campagne, c'est qu'il y a vraiment tout un écosystème cybercriminel où on a d'un côté un criminel qui fabrique un logiciel malveillant et qui le met à disposition contre rémunération. Un attaquant qui utilise sa propre chaîne d'infection. Son infrastructure de phishing et qui loue ce service de malware pour d'ailleurs aller voler des credentials qui va revendre à d'autres criminels qui vont les utiliser pour faire du phishing bancaire. Donc voilà, on a vraiment différents criminels dans cybercriminels dans cette chaîne avec des rôles très très différents mais avec une interaction entre eux. Voilà, chacun apporte sa petite fait son petit business avec ça quoi.
On a un espèce de taylorisme de façon de découpage des fonctions qui était de plus en plus sophistiqué. Les malveillants sont clairement en avance sur la plupart des compagnies en termes de numérique, ce qu'on peut voir, parce qu'ils ont déjà compris qu'ils vont spécialiser dans des niches très, très spécifiques. Justement, le fait qu'ils louent un service, qu'ils l'utilisent pour faire ce genre de choses, et eux ne font que revendre les accès vers un autre tiers qui, lui, est spécialisé dans la fraude bancaire. Et justement, ça amène à l'autre partie. C'est l'autre partie de votre analyse, le côté fraude bancaire. Comment tout ça s'est matérialisé et comment le passage de, genre, j'ai volé des accès à l'acheter, comment tout ça se matérialise et comment tout ça s'exécute?
Alors, dans un premier temps, l'attaquant va récupérer des accès sur à des comptes. On a cité Booking.com, Expedia, ça peut en être d'autres, pour récupérer la liste des prochaines réservations, donc dans les jours qui suivent, la liste des clients. Et ensuite, il va pouvoir faire du phishing qui cible ses clients d'une manière très précise en récupérant les informations liées à ces réservations. Donc nous, on a connaissance que ce phishing peut se faire via email, mais également via WhatsApp et potentiellement via d'autres canaux. Et ensuite, ce phishing-là va rediriger les futurs clients de l'hôtel sur des pages de phishing qui vont récupérer les informations bancaires de la prochaine éventuellement victime et qui vont sûrement initier des transactions bancaires pour faire payer la victime pour la réservation qui a déjà été normalement payée via le site légitime.
Et pour compléter, au niveau de l'accroche, en fait, ce que va faire l'attaquant, c'est qu'il va dire, voilà, c'est vous avez été en gros pris au hasard parmi la liste de nos... il se fait passer pour l'hôtel. Hein. Vous avez été pris au hasard parmi la liste de nos clients. On procède voilà, à des vérifications bancaires sur... au hasard, vous avez été tiré au sort, ou alors il y a eu un échec dans la validation de votre empreinte numérique de votre carte bleue. Juste mettez vos numéros pour qu'on les valide. On ne paye, il n'y aura pas de prélèvement ni rien. Mais voilà. Mais alors, c'est vrai que ça semble un peu gros dit comme ça, mais puisque l'attaquant connaît la date de la réservation, connaît le nom de la, enfin l'identité de la personne qui réserve, connaît le nom de l'hôtel, etc. Ben forcément, vu de la victime, se dit ben ouais, ok, ça paraît crédible. Et derrière la page sur laquelle est renvoyé, ben, bon, l'URL peut paraître plus ou moins suspecte, mais derrière, ben, effectivement, on retombe encore sur du branding qui va impersonner Booking, Expedia, etc. Donc, tout est fait, en gros, pour vraiment mettre en confiance, en tout cas, vraiment leurrer au maximum ben, la victime. Quoi.
Ouais, ben, la peau est clairement légitime pour l'attaquant. C'est très difficile de percevoir. Puis, on voit une professionnalisation de ces sites-là. Là, les autres, c'est dans un cas de Booking. J'en ai vu dans d'autres contextes, plus petite échelle, où c'est justement des sites de transactions d'argent et justement, ils ont tout le cachet professionnel. Et du moment qu'on regarde l'URL, quand on est éveillé, on se rend compte qu'on est en train de se faire piéger. Et en l'occurrence, là, ils demandent le mot de carte. Est-ce qu'ils vont aller plus loin, aller chercher justement les accès dans le compte Booking? Est-ce qu'ils sont audacieux ou ils vont juste faire de la fraude bancaire bien simple? Ils veulent juste le compte de la carte bleue en l'occurrence, puis justement voler l'argent dans les choses, puis s'en aller ou sont-ils à la portée de leur vol ou de leur malveillance?
On n'a pas poussé l'investigation jusqu'à cette étape. Mais je suppose qu'ils vont surtout faire une transaction bancaire directement via la fausse page de booking.com pour extorquer de l'argent directement à la victime. Je ne suis pas sûr que les coordonnées bancaires soient à nouveau réutilisées, puisque aujourd'hui c'est assez complexe de réutiliser des coordonnées bancaires puisqu'il y a plusieurs étapes de vérification. Donc je suppose que c'est principalement juste une transaction. Et puis, ce sont des montants assez élevés, puisque ça, c'est des montants de l'ordre de souvent plusieurs centaines d'euros, puisque c'est lié à la réservation d'un hôtel. Et donc, en multipliant ces fraudes, en multipliant ces phishing, je pense que l'attaquant arrive à faire des gains financiers assez élevés, simplement avec des transactions bancaires à l'unité.
Probablement, parce qu'une réservation à juste quelques centaines d'euros, c'est des petites réservations. Les réservations plus classiques vont être à plusieurs milliers d'euros, donc ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace comme fraude que d'aller chercher 25 euros dans le compte d'une personne un peu distraite. L'usage de WhatsApp dans les choses, parce que c'est plus européen, l'usage de WhatsApp comme ça, est-ce que c'est courant dans la stratégie qui est utilisée là ou c'est spécifique au groupe que vous avez observé?
Alors, pour repartir sur notre cas, en fait, l'investigation, nous, on l'a démarré de par un partenaire qui nous a partagé voilà, ce cas. Alors, ce partenaire en question, c'est un opérateur SOC. Et cet opérateur SOC a dans son scope client un hôtel qui a été victime de cette fraude. Et un de ses clients s'est justement plaint et a reçu un message WhatsApp. Alors, pour le coup... ce qui a vraiment mis le doute au client, c'est qu'il réservait dans un hôtel dans un pays A et le préfixe du numéro de téléphone sur WhatsApp venait d'un pays qui n'avait rien à voir. Donc là, clairement, voilà, on va dire premier point de vigilance. Maintenant, ce qu'il faut bien décorréler, c'est il y a vraiment deux groupes. Je pense qu'on l'a explicité, hein, mais il y a vraiment deux groupes. Hein, le groupe qui vole les accès Booking et qui les revend à des tiers, et ceux qui les exploitent. Et c'est vraiment deux écosystèmes différents. Et à ce titre, il y a certainement plusieurs groupes qui achètent des accès à Booking pour d'ailleurs faire ce type de fraude. Probablement un qui est spécialisé, qui le fait via WhatsApp, d'autres via du phishing mail plus classique. Donc voilà, en tout cas pour le cas que nous on a documenté, on est vraiment parti sur le cas WhatsApp et en remontant le cluster, parce que du coup nous comme disait Quentin, c'est lui le spécialiste sur le tracking des infrastructures, on constate que ces infras de phishing, elles sont aussi valides sur du mobile que de l'ordinateur classique, donc probablement que l'attaquant est capable de faire les deux.
C'est très intéressant de voir qu'est-ce que ça fait. De ce que vous avez réussi à tracer, du moins dans les choses, ces attaquants-là proviennent raides, ou en tout cas, bref, sont hébergés à quel endroit pour opérer, même s'ils ne sont pas nécessairement vraiment localisés à cet endroit-là. La trace vous a amené à peu près dans quelle zone du monde?
Je ne suis pas sûr qu'on ait des preuves exactes sur la localisation des attaquants derrière ce cluster. Par contre, en faisant de l'analyse des forums cybercriminels, aussi appelés du dark web, on a pu identifier que de nombreux acteurs russophones, donc qui proviennent principalement de l'ex-URSS, utilisent ce mode opératoire, puisqu'il y a de nombreux services qui sont vendus en lien avec ce mode opératoire. Donc des gens qui proposent de lister plein d'adresses mail associées à des hôtels, des gens qui proposent de vendre des accès sur des sites, enfin des services compromis comme Booking, etc. Il y a des gens qui recrutent des personnes pour opérer cette chaîne. Enfin, l'écosystème est très professionnalisé et c'est l'écosystème qui est plutôt d'origine d'ex-URSS.
Ouais, ben l'objectif, c'était pas de cibler précisément parce que c'est parfois très difficile de savoir d'où ça arrive, mais au moins d'avoir une idée de où les activités sont les plus présentes donne quand même une idée de l'endroit et donc des objectifs qui sont associés à ce genre. Les modes opératoires russophones sont différents, disons, des modes opératoires qu'on va trouver dans d'autres pays. Donc, ça donne quand même une piste pour guider un peu la recherche par rapport à ça. J'ai fait un bon tour au niveau de mes questions. Est-ce qu'il y a des aspects que je n'ai pas abordés que vous aimeriez partager?
Ce qu'on peut dire aussi, c'est un petit peu le côté historique. Parce que c'est vrai que quand on a fait l'invest ensemble avec Quentin, Quentin m'avait dit qu'il y a quelques temps, il avait déjà travaillé sur un cas similaire. Et à l'époque, sans dire que c'était un côté artisanal, c'était il y avait on va dire qu'une seule personne, qu'un groupe, on va dire, d'attaquants qui faisait ce type d'opération. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a plutôt tendance à observer, ça a été documenté notamment ce type de campagne par Microsoft en début d'année et par d'autres grands acteurs qui font de la CTI. Donc ça a l'air de s'être professionnalisé et qui a l'air d'avoir plusieurs acteurs qui sont venus dessus, probablement du fait du gain financier attractif. Et donc voilà, c'est vraiment de voir que y a, au départ, c'est vraiment quelque chose qui est fait peut-être par quelqu'un tout seul dans son garage, si on reprend l'image d'Épinal du start-upper, quoi. Et que derrière, en voyant qu'il y a moyen d'avoir des gains financiers intéressants, ben, ça se professionnalise et qu'il y a plusieurs groupes qui viennent sur ce terrain-là, quoi. Donc ça c'était un point que je trouvais intéressant aussi dans cet invest. Et voilà, et de voir aussi la rapidité d'adaptation, parce que quand on regarde les chaînes d'infection qui ont été documentées pour ces campagnes par Microsoft en début d'année et par d'autres en cours d'année, on voit que très rapidement, ben, les attaquants, ils switchent leur mode opératoire pour essayer toujours pareil, comme disait Quentin tout à l'heure, ben, d'être le plus discret possible, tout en étant générique, sans faire du sur-mesure pour chaque victime.
Et le niveau de mécanisation que vous avez observé, j'imagine qu'il a augmenté étant donné que ça s'est professionnalisé versus d'un point de vue plus artisanal qu'on pouvait voir il y a quand même plusieurs années. Là.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs années, on observait que peu de clusters qui utilisaient ce mode opératoire et aujourd'hui, au sein de Sequoia, on traque différents clusters associés à ce mode opératoire et ça démontre bien que ce mode opératoire, c'est popularisé au sein de l'écosystème cybercriminel russophone. Et donc, cette professionnalisation, dans différents milieux cybercriminels, elle se fait notamment via l'utilisation de plusieurs services, via des marketplaces qui permettent de revendre des accès, de faciliter tout ça. Et c'est un ensemble qui permet cette professionnalisation.
Puis ça, c'est ma dernière question. Le résultat de cette recherche-là, vous avez des IOC qui en ont sorti, des indices de compromission. À quoi ça ressemble un peu dans l'occurrence? Puis est-ce que vous allez les publier?
Oui, tout à fait. Je pense qu'à chaque fois qu'on fait une investigation au sein de Sequoia, on partage les IOC, enfin, et qu'on partage via un blog post les résultats de cette investigation, on partage les IOC à la communauté, aux autres vendeurs de sécurité. Et donc, pour cette investigation, pour les différentes étapes, donc pour l'étape qui cible les hôtels et pour l'étape qui va cibler les particuliers, les clients de ces hôtels, on a investigué différents clusters. Et donc, aujourd'hui, on a des méthodes qui nous permettent de suivre de manière automatique et proactive ces clusters. Et donc, les IOC sont des noms de domaines qui vont souvent impersonnifier Booking ou qui vont utiliser des termes liés aux réservations, liés à l'hôtellerie, liés à tout ça, et des adresses IP qui vont aussi héberger ces noms de domaines. Et donc, aujourd'hui, on a de nombreux IOC associés au cluster donc, que l'on a analysé via cette investigation dans ce blog post, mais également d'autres clusters qui vont impersonnifier Booking.com dans l'objectif de faire de la fraude également et de cibler des hôtels.
Cool. Merci énormément de ce partage-là. C'est très intéressant de voir que vous avez mis en lumière la professionnalisation de ces milieux-là. Ce n'est plus juste un mythe qu'on se faisait dire il y a quelques années. On disait « oui, oui, ça s'en vient ». Mais là, c'est vrai, ça s'en vient pour de vrai et c'est de façon industrielle comment ils fraudent ça. Merci pour ce partage-là. Un, pour le blog post, puis d'être passé sur le podcast pour venir en partager une autre facette supplémentaire de votre recherche.
Merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup à toi de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de présenter nos travaux de recherche.